Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute.
Bonjour Alexandra de Bézieux.
Bonjour Julien Vidal.
Bienvenue dans le podcast 2030 glorieuses, dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Je tiens forcément à remercier la NEF qui est le partenaire de ce podcast. La NEF, si vous ne la connaissez pas encore, c'est une coopérative bancaire citoyenne qui soutient depuis plus de 30 ans les porteurs de projets sociaux, écologiques et culturels. Et c'est un partenariat qui a été renouvelé pour une seconde année qui me permet de continuer à vous faire découvrir des personnes inspirantes. Alexandra, tu es la directrice générale de RailCoop. C'est une coopérative dont l'ambition est de redonner du sens à la mobilité ferroviaire en impliquant citoyens, cheminots, entreprises et collectivités. Aujourd'hui, nous échangeons à distance et nous parlerons ensemble de mobilité accessible et durable, de soutien citoyen et de la pertinence du modèle coopératif pour mettre le milieu économique au diapason des urgences du 21e siècle. En préambule, je m'excuse pour les personnes qui m'écoutent et qui entendent mon brin de voix un peu cassé, mais les changements de météo actuels m'ont un peu malmené. Donc voilà, je suis quand même très content de pouvoir mener à bien cette interview. Et je commence quand même cette interview et cet échange, Alexandra, de la même manière que je commence désormais tous les échanges, en te posant cette question qu'on en vient presque un peu tous et toutes à redouter. Imagine que tu es dans un événement où tu rencontres des personnes pour la première fois et forcément, parmi les premières questions qui te seront posées, c'est « Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Tu leur réponds quoi à ces gens-là ?
Merci de m'accueillir ce matin. Alors effectivement, qu'est-ce que je vais leur répondre ? Je vais leur dire que j'essaie de remettre du train là où il n'y en a plus, avec d'autres, bien sûr. Mais j'essaie effectivement de repenser, on va dire, un aménagement du territoire qui soit un peu plus harmonieux, voilà, à travers notamment la possibilité de développer des nouvelles lignes de chemin de fer, puisque c'est ce qu'on fait au sein de RailCoop, hein. On est une coopérative ferroviaire, on est une entreprise ferroviaire, on fait déjà rouler des trains, on fait rouler des trains de marchandises, mais très bientôt on fera rouler des trains de voyageurs. Et donc l'idée, l'objectif de RailCoop, ça a été et c'est toujours de mettre des trains là où il n'y en a plus ou plus suffisamment pour permettre à des gens qui sont dans les territoires ruraux, notamment, de se déplacer, d'accéder à des services, d'accéder à des biens, voilà, et de se sentir, de moins se sentir peut-être exclu d'un certain nombre de choses. Donc, voilà, ce que j'essaie de faire modestement à mon niveau dans la coopérative.
Tu as commencé à dire plein de choses sur lesquelles on va revenir, notamment sur les missions très concrètes de RailCoop, mais permets-moi, Alexandra, de m'arrêter un petit peu plus sur ton intitulé de poste, puisque là où, à l'époque, j'ai l'impression qu'au XXe siècle, disons-le comme ça, on pouvait être directeur général, puisque là, c'est l'intitulé que j'ai utilisé, que j'ai vu sur ton profil LinkedIn, une entreprise ferroviaire, et puis ensuite, pourquoi pas, d'une entreprise d'alimentation. On a vu des grands dirigeants changer de structure sans forcément avoir un vrai lien dans les thématiques avancées. J'ai l'impression que le 21e siècle, c'est quelque chose qui n'est plus vraiment vrai dans le sens où on laisse dans les métiers de plus en plus de place au savoir-être, à la pulsion de vie. Et donc, j'aurais quand même tendance à essayer de creuser un peu cet intitulé de poste que toi, tu as. Tout de suite, dans ta réponse, tu me dis que tu travailles à démocratiser le train. Est-ce que ça t'irait de dire que tu es une promotrice du ferroviaire ou est-ce que tu le nommerais autrement? Mais est-ce que tu vois ce que je veux dire?
Alors, je vois tout à fait ce que tu veux dire, Julien, parce que initialement, je ne me nommais pas. Alors déjà, peut-être pour préciser, je ne suis pas directrice générale, je suis directrice générale déléguée. Donc, ça veut dire qu'on est deux... Enfin, à la direction générale de RAECOP, déjà, en fait, on est deux. Mais pendant longtemps, dans mon intitulé de poste, notamment sur les réseaux sociaux, j'avais pas forcément envie de me nommer comme ça. C'est-à-dire que pendant longtemps, je me suis nommée membre de la direction collégiale. Parce qu'effectivement, pour moi, au sein de RAECOP, on a une dynamique collégiale, on a un conseil d'administration, on a une direction générale, et effectivement, les décisions sont prises de manière collégiale. Assez vite, en fait, et c'est là, en fait, je rejoins tout à fait ce que tu dis, et il y a probablement quelque chose qui doit être transformé par rapport à ça. Quand on se présente vis-à-vis notamment des financeurs ou un certain nombre d'acteurs, quand on dit qu'on est membre de la direction collégiale, parfois ça fait peur. On a l'impression effectivement que du coup l'entreprise elle est pas gérée, il y a pas de pilotage, etc. Enfin, c'est un peu l'impression parfois que certains financeurs ont pu me donner. Donc j'ai changé ce titre, pas forcément de gaieté de cœur, pour être tout à fait honnête. Moi, je tiens pas particulièrement à m'appeler directrice générale déléguée avec tout ce que ça renvoie comme imaginaire lié à toutes ces formes de pouvoir un peu anciennes, je te le concède volontiers. Et en même temps, effectivement, dans la démarche qui est la nôtre, où on doit quand même réussir à convaincre encore des acteurs de l'économie classique, parce que la transformation, elle est en train de s'opérer, mais il y a en fait quelque part quelque chose qui... il y a encore des schémas anciens dans l'approche et l'appréhension en fait de l'organisation des entreprises, effectivement, ce titre, j'ai fait le pas, j'ai sauté le pas et j'ai transformé mon titre de cette manière-là. Mais je te rejoins complètement, c'est-à-dire que pour moi, c'est pas, enfin, comment dire alors, pour être par rapport à l'autre partie de ta question, moi, je suis pas née dans le ferroviaire, j'ai pas grandi dans le ferroviaire, je viens pas non plus avec une expertise ferroviaire. Donc demain, je pourrais tout à fait, pourquoi pas, aller travailler dans une, je sais pas, peut-être à la NEF, peut-être chez Enercop et tout ça. Par contre, effectivement, ce qui m'anime, c'est ce modèle de l'économie sociale et solidaire, c'est ce modèle finalement de l'engagement citoyen, presque de l'autogestion. Moi, je pense que effectivement, en tout cas, au sein de RAECOP, on essaie de promouvoir ce modèle-là, c'est-à-dire que, bien évidemment, il y a un collège de salariés parmi les sociétaires. Les salariés ont autant de droits de vote que d'autres collèges dans la coopérative, que les quatre autres collèges de sociétaires. Les salariés peuvent être représentés comme les autres collèges de sociétaires au conseil d'administration. Donc, on est vraiment, effectivement, enfin, on essaye en tout cas, tous, je pense, de créer un nouveau modèle d'entreprise où finalement les salariés et comme les différentes parties prenantes de la vie d'une entreprise, puisqu'en fait une entreprise elle n'est pas hors sol en fait, hein, elle interagit bien évidemment et c'est encore plus vrai pour RAECOP puisque on est complètement en lien avec les citoyens dans les territoires, avec les entreprises des territoires, avec les collectivités locales. Et donc, forcément, il y a cette nécessité d'interaction et de partage du pouvoir et des orientations stratégiques parce que, pour moi, effectivement, une entreprise ne peut pas être complètement... bien évidemment que ça dépend du type d'entreprise, mais ne peut pas être, effectivement, laissée... Enfin, ne peut pas vivre hors sol. En général, les entreprises, une entreprise comme RAECOP en particulier, est forcément dans cette... dans cette logique-là de co-construction, si je puis dire. Je ne sais pas si je suis très claire, mais on a un petit peu dérivé entre mon titre, ma fonction, ma manière de voir les choses et l'organisation de RAECOP.
Tu montres bien, en tout cas, dans ta réponse, Alexandra, cette tension hein, entre les deux mondes, là, en l'occurrence, au niveau économique, mais je trouve que c'est assez vrai au niveau politique, au niveau sociétal, sur cette nécessité d'être hyper exigeant dans un nouveau modèle, une nouvelle manière aussi d'impliquer les citoyens, d'en faire des parties prenantes et en même temps cette nécessité aussi d'arriver à traduire ce discours, cette volonté, cette ambition dans des codes de notre modèle classique qui était le monde d'hier et qui malheureusement continue à rester un peu le monde d'aujourd'hui. Depuis l'ouverture du marché du ferroviaire, si je dis pas de bêtises, fin 2020, Railcoop s'est positionné justement pour pouvoir redynamiser le train partout en France avec ce modèle coopératif. Et donc, tu l'as dit, et j'aimerais que tu le développes un petit peu, s'il te plaît. Depuis novembre 2021, vous faites rouler des trains de marchandises et vous allez bientôt lancer votre premier service voyageur.
Oui, tout à fait. Donc, effectivement, à l'origine de Railcoop, ça a été vraiment alors, je dirais pas une prise de conscience parce qu'on en avait tous conscience, mais en tout cas, un réveil actif d'un certain nombre de citoyens en se disant, quand on vit dans des territoires ruraux, qu'on défend finalement un mode de vie un peu moins tourné vers la consommation de masse, qu'on a envie de retrouver une forme de retour à la nature, finalement, on se retrouve face à un paradoxe, c'est que la plupart du temps, il faut qu'on ait une, voire deux voitures pour pouvoir se déplacer. Et en fait, c'est de là qu'est né le projet Railcoop, en se disant, mais en fait, aujourd'hui, si on veut arrêter cette hyper-métropolisation, si on veut redonner de la place aux territoires ruraux, créer, effectivement, relocaliser finalement une partie de l'économie, il faut aussi participer à construire un système de transport qui soit beaucoup plus inclusif. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, très vite, le train est apparu comme une solution, comme la solution, peut-être pas la seule, mais comme une solution importante, effectivement. D'autant qu'aujourd'hui, on a en France quand même encore une infrastructure ferroviaire qui, certes, s'est beaucoup dégradée ces dernières années, mais existe encore et est, dans la plupart des territoires, sous-utilisée. Et donc, en fait, c'est comme ça qu'est né le projet Railcoop, qui est né Railcoop. On était une quinzaine de personnes, de citoyens, à se dire, mais en fait, oui, si on doit faire concrètement quelque chose pour les territoires ruraux, développer une mobilité décarbonée dans les territoires ruraux, il faut qu'on développe le train. Et une fois qu'on s'est dit ça, on s'est dit, mais développer le train, alors quelle peut être notre action? C'est-à-dire, soit on est dans une action de plaidoyer, comme font certains, il y a plein d'associations de défense de ligne en France qui existent, donc on se dit, soit effectivement on crée une nouvelle association de défense de ligne, et pourquoi pas, mais en même temps, là, l'ouverture du marché nous donne la possibilité d'agir un peu plus concrètement et de nous saisir, nous, en tant que citoyens, de cet enjeu qui nous semble important et sur lequel, finalement, depuis toutes ces années, on n'a pas eu d'écoute de la part des pouvoirs publics, en fait. Hein. On a constaté tous, je pense, un désengagement de l'État, de la SNCF, hein, et après par rapport aussi aux orientations qui lui ont été données, de ces territoires ruraux. Et donc, effectivement, on s'est dit, on va créer une entreprise ferroviaire. Alors, très vite, pour te donner un peu la genèse du projet, le projet est né donc dans le Lot, du côté de Figeac. Il y avait une ligne, il y a une ligne en fait qui est la ligne entre Figeac et Cahors, hein, schématiquement, qui n'est plus utilisée. Cahors-Cap-de-Nac, en fait, pour être précis, qui n'est plus utilisée. Et donc, en fait, on s'est dit, est-ce qu'on crée une entreprise pour redévelopper un service sur cette ligne, mais sachant que l'infrastructure, pour le coup, elle est quand même très dégradée, donc ça aurait nécessité quand même aussi de s'engager sur la rénovation de l'infrastructure. Bon, on a réfléchi à ça. Puis en fait, on s'est dit, mais créer une entreprise ferroviaire, ça demande énormément à la fois de capitaux, ça demande énormément de technicité, parce qu'il faut des certificats de sécurité, enfin, il faut un système de sécurité qui soit très performant, surtout quand on transporte des passagers, bien évidemment, des marchandises aussi, mais j'ai envie de dire encore plus quand on transporte des personnes. Et donc, on s'est dit, mais en fait, si on doit faire tout cet effort pour devenir entreprise ferroviaire, autant d'emblée être sur une entreprise ferroviaire à dimension nationale, parce que les manques que l'on constate dans le Lot, là où les fondateurs sont, en fait, finalement, on est certain qu'on va constater ces manques ailleurs en France. Donc, autant créer une entreprise ferroviaire à dimension nationale, sous forme coopérative, et s'engager effectivement dans ce projet collectif au niveau national. Voilà, j'ai peut-être été un peu longue, j'en suis désolée.
Non, mais ça a le mérite d'être complet. Et surtout, ça montre bien que ces ouvertures de marché qui, du coup, pourraient laisser penser que, en fait, ce sont des géants qui viennent parfois d'Europe, qui vont se positionner sur, là, en l'occurrence, des sujets nationaux, voire internationaux, qui nous semblent nous dépasser, peuvent être ressaisis par des citoyens. et que on commence quelque part, mais qu'ensuite on peut petit à petit avancer dans son projet, soit effectivement avec le développement des lignes que vous êtes en train de réaliser, mais aussi un engouement, une dynamique collective, puisque RailCoop aujourd'hui c'est plus de 12 000 sociétaires.
Oui, c'est ça, effectivement, plus de 12 000 sociétaires. Alors après, c'est vrai que ce développement ne se fait pas sans difficulté, hein, pour être honnête. Je pense qu'on reviendra dessus à l'occasion de cet échange, mais donc on a lancé, donc c'est vrai que tout à l'heure j'ai pas été complètement au bout par rapport à la question que tu me posais, mais donc on a lancé notre premier service fret en Occitanie, on va lancer effectivement notre service voyageur entre Bordeaux et Lyon dans les prochains mois. Le sujet, bien évidemment, c'est de réussir à lever les fonds qui sont nécessaires pour réaliser cette activité voyageur. Et on se rend compte que, bien évidemment, c'est pas si facile. Alors, on a réussi à lever 7 millions d'euros en peu de temps, hein, finalement, auprès des citoyens, auprès des entreprises, auprès des collectivités locales, ce qui est assez inédit dans le monde coopératif pour une entreprise en phase d'amorçage. Donc ça, faut en avoir conscience. Mais ceci étant dit, on se rend compte que les partenaires financiers classiques, les partenaires bancaires, ont un peu de frilosité à s'engager sur un nouveau marché qui s'ouvre, sur un modèle ferroviaire un peu atypique à travers la forme coopérative, sur effectivement dans un marché où la SNCF a été en situation de monopole depuis tellement d'années, donc effectivement les acteurs finalement bancaires n'ont pas non plus les grilles d'analyse par rapport à ce marché qui s'ouvre. Et j'ai envie de dire, là où il y a une forme de déception, hein, de mon côté, je vais le dire comme ça, c'est que même les acteurs de l'économie sociale et solidaire sont certains, en tout cas, c'est pas le cas de la NEF, c'est pas le cas de la CGSCOP, je tiens à les en remercier, c'est pas le cas d'IES par exemple, mais c'est vrai qu'on se rend compte que certains acteurs classiques de l'économie sociale et solidaire ont pu être dans une posture assez frileuse aussi, parce que finalement, eux-mêmes considérant, voir un projet comme RailCoop à haute intensité capitalistique se positionner sous forme de société coopérative d'intérêt collectif, en fait, c'est quelque chose d'atypique aussi pour le monde de l'ESS. Et paradoxalement, on se rend compte que les schémas de pensée, de financement, d'intervention d'un certain nombre d'acteurs de l'ESS ne sont pas faits non plus pour soutenir en fait une transformation radicale avec des projets à haute intensité capitalistique comme RailCoop. Voilà, vous allez avoir des financeurs qui nous ont proposé des tickets à 100, 200 000 euros et tout ça. Donc c'est déjà bien, j'ai envie de dire, mais on sent quand même que il y a un problème de fond aussi sur la préparation du secteur de l'économie sociale et solidaire, pour se dire, mais oui, le secteur de l'économie sociale et solidaire, il peut aussi aller sur des secteurs très capitalistiques. Et voilà, donc il y a aussi tout un changement de paradigme, de réflexion, de mode de pensée à opérer, non seulement, j'ai envie de dire, pour des acteurs classiques, bancaires, du financement, mais ça, c'était assez attendu et couru, mais aussi, effectivement, paradoxalement, pour des acteurs de l'ESS, et encore une fois, hein, je mets bien de côté la NEF et la CGSCOP et IES, qui sont vraiment les trois partenaires qui ont été les premiers à nous soutenir, voilà, avec un engagement important de leur côté, donc on les en remercie. Mais c'est vrai qu'on, voilà, au début, même les acteurs de l'ESS nous ont dit, mais attendez, c'est génial, mais vous demandez des millions, on n'a pas l'habitude, etc., etc.
Je reste sur ce que tu dis, Alexandra, sur ce point qui me semble crucial, puisque on nous parle souvent, d'un changement de paradigme, d'une mise à l'échelle de toutes ces alternatives durables, solidaires qui, représente vraiment les 2030 glorieuses et qui montre en creux à quel point il y a urgence à changer le modèle actuel. Et à la fois, toi, tu fais part, hein, de ces difficultés, là, en l'occurrence financières, pour le faire changer d'échelle, ce modèle. Est-ce que on parle d'un manque de vision des structures qui pourraient vous soutenir? Est-ce que c'est plutôt un manque de légitimité? Est-ce que c'est un problème de dimensionnement, notamment financier? Et en fonction de tes réponses, est-ce que ça ne veut pas aussi dire que fatalement, pour mettre la France, en l'occurrence sur de bons rails, pour rester dans le vocabulaire du ferroviaire, ça ne veut pas aussi dire qu'on a fatalement besoin d'une planification étatique? On a ce mot qui est pas mal revenu là, ces dernières semaines.
Alors, je pense qu'effectivement, c'est sans doute une question d'échelle. Je te rejoins, c'est-à-dire que je pense que la puissance publique ne peut pas être étrangère à cette transformation. C'est-à-dire, je pense qu'il faut une incitation très forte de la puissance publique. Je pense que c'est vraiment un enjeu politique au sens noble. Si on veut aller vers cette transformation, vers cette approche finalement un peu différente, enfin, quand je dis un peu différente, c'est un euphémisme, mais de l'économie, je pense en effet que la puissance publique a son rôle à jouer. Aujourd'hui, pour être très clair, hein, nous, par rapport au financement de notre matériel roulant voyageur, donc on parle quand même de plusieurs dizaines de millions d'euros, on demande du coup à la puissance publique d'apporter des garanties aux prêteurs financiers, aux banques, pour nous permettre effectivement d'accéder à ces prêts bancaires. Donc il y a besoin de la puissance publique, effectivement, dans cette transformation, je pense, dans cette transformation des modèles économiques. Mais quelque part, il n'y a rien de... Comment dire ? La puissance publique, elle a toujours accompagné, en fait, des transformations, des changements, etc. Donc c'est bien, effectivement, une dimension politique qui doit être intégrée, par exemple, dans des... je pense, par exemple, à la fiscalité, en incitant... Il y avait notamment, effectivement, on avait fait paraître une tribune avec les licornes, donc les autres coopératives.
On en reparlera,
de,
ouais.
De marché de masse, en incitant, enfin, en indiquant, effectivement, qu'il fallait sans doute que la fiscalité pour l'investissement dans les SIC soit, enfin, les avantages fiscaux soient augmentés, par exemple. Voilà, des choses comme ça. Et puis, parce que déjà, ça, c'est une manière aussi d'aller lever des fonds, d'aller lever de l'argent auprès des citoyens, auprès d'autres acteurs, hein. Ça peut être aussi des entreprises. Là, pour le coup, les entreprises aujourd'hui n'ont pas d'avantage fiscal à rentrer dans une société coopérative d'intérêt collectif, par exemple. Donc ça, c'est peut-être quelque chose à développer. Donc oui, je pense qu'il y a la nécessité pour la puissance publique d'accompagner cette transformation si elle souhaite aller vers ça. Et ça, c'est tout le sujet. Mais ça, c'est un programme politique. Ça, c'est une orientation politique, finalement.
Plus que ça, c'est une conversation... qu'on doit avoir et que l'avènement des 2030 glorieuses ne peut pas louper la conversation de nos besoins vitaux, de nos services de base et aussi un repositionnement quant à la question du coût versus la question de l'investissement. Et là, en l'occurrence, pour des choses aussi vitales qu'un transport durable et collectif, accessible pour tous et pour toutes, je crois qu'on doit une bonne fois pour toutes dépasser la vision d'un simple coût investissement pour se vraiment positionner en se disant qu'il y a des choses qui doivent être financées quoi qu'il en coûte, comme dirait l'autre. On va terminer cette première partie qui est passionnante, Alexandra, mais donc du coup, je ne peux pas quand même m'empêcher de te poser la question de comment vous soutenir les personnes qui nous écoutent et qui se disent « Mais RailCoop, c'est extraordinaire, je n'en avais pas entendu parler. Moi, j'ai envie de voir ce projet se développer. » Comment, très concrètement, elles peuvent abonder dans votre sens et faire que cette dynamique prenne encore plus ?
Eh bien, il y a plusieurs moyens. Déjà, nous soutenir financièrement en devenant sociétaire de RailCoop. Et donc ça, c'est sur le site de RailCoop, hein, railcoop.fr, et vous pouvez souscrire. La part sociale est à 100 euros, donc vous pouvez prendre une part, deux parts, 10 parts, autant de parts que vous voulez, pour vous, pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Ça, c'est la première chose. Ensuite, parler de RailCoop autour de vous. Donc ça, c'est important aussi. Si vous êtes sociétaire, si vous devenez sociétaire, j'évoquais tout à l'heure le modèle coopératif, on est vraiment dans la construction avec les sociétaires qui le souhaitent. Bien sûr, les 12 000 sociétaires ne sont pas actifs dans la coopérative, mais je pense qu'on doit avoir à peu près aujourd'hui 600 à 700 sociétaires très actifs dans la coopérative, à travers notamment des cercles de réflexion sur des sujets comme le développement des futures lignes, les services pour les personnes en situation de handicap, l'accessibilité, le lien train et vélo, par exemple. Donc voilà, c'est aussi une manière de s'engager concrètement dans la coopérative. Alors, c'est réservé aux sociétaires, hein, mais c'est une manière effectivement de participer, de construire le projet collectif qui est RailCoop. Voilà, donc ça peut être à travers ces différents moyens.
Merci Alexandra pour cette première partie qui est vraiment passionnante. On va voyager vers les utopies vivantes, on va voyager ensemble en 2030 glorieuse, dans un monde où on a réussi à remettre au cœur de notre société d'autres croissances, on en reparlera tout à l'heure. Mais à chaque fois, l'invité nous offre une respiration à travers un passage, un extrait d'une lecture qui l'a particulièrement touché et qui représente, selon l'invité, des valeurs qu'il a envie de voir advenir dans les 2030 glorieuses. Toi, tu es venue avec quoi, Alexandra ?
Je suis venue avec Jean Giono et un livre qui s'appelle « Que ma joie demeure ». « plus loin, le cerf trouva une route de loutre. Elles avaient passé là à deux. Elles se dirigeaient vers le nord, du côté d'où venait l'odeur de roseaux, de boue et de moutons. Il trouva aussi le piétinement d'un héron et un morceau d'entrailles de grenouille. Il entendit chanter des martins pêcheurs. Il entendit clapoter une étendue d'eau. Il tourna la tête pour revoir la luzernière. Il se souvenait du garçon et des yeux qu'il avait. Des yeux d'homme, mais paisibles, et où il s'était vu reflété, lui, le cerf, avec les branches arides de son front. Le garçon n'était plus là. Il devait être à la ferme, là-bas. Le cerf ne pouvait pas savoir au juste, car l'odeur de cette ferme était une odeur de cheval mâle et prisonnier, l'odeur accumulée et terrible d'un cheval privé de femelle depuis longtemps. Alors le cerf dansa pour lui-même. Il était sur une lande nue. Il se sentait triste en se souvenant du cheval. Il levait les jambes une après l'autre. Il baissait la tête, il la relevait, il éternuait. Il était triste. La lande nue, le printemps, pas de femelle, le cheval, le vieil homme, le jeune homme qui arrosait. Il dansa le vieil homme, il dansa le jeune homme, aux yeux paisibles. Il dansa le cheval malheureux et le cerf malheureux. Il dansa la lande, il dansa son désir de printemps, il dansa la brume et le ciel, il dansa toutes les odeurs et tout ce qu'il voyait, et tout ce qui était sensible à ses yeux, à ses oreilles, à ses narines et à sa peau. Il dansa le monde qui était ainsi entré dans lui. Il dansa ce qu'il aurait dansé s'il avait été joyeux. Il redevint joyeux. Tout d'un coup, dans la montagne de l'orage ruisselèrent 20 torrents de feu. Le plateau frappé de partout par la foudre sonna comme une cloche. Ce n'est pas vrai. S'il n'y avait pas de joie, il n'y aurait pas de monde. Ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas de joie. Quand on dit qu'il n'y a pas de joie, on perd confiance. Il ne faut pas perdre confiance. Il faut se souvenir que la confiance, c'est déjà de la joie. L'espérance que sera tout à l'heure, l'espérance que ça sera demain, que ça va arriver, que c'est là, que ça nous touche, que ça attend, que ça se gonfle, que ça va crever tout d'un coup, que ça va couler dans notre bouche, que ça va nous faire boire, qu'on n'aura plus soif, qu'on n'aura plus mal, qu'on va aimer. Juste vous lire ces petits extraits de Jean Giono que je trouve très beaux personnellement, parce que je pense que, comme je le disais tout à l'heure, la joie est un moteur puissant d'action, d'espérance, de transformation, enfin voilà, de plein de choses.
Merci Alexandra pour cette bulle d'inspiration. Et d'ailleurs, pour les personnes qui n'ont pas encore écouté tous les podcasts, tous les épisodes de 2030 Glorieuse, ben c'est vrai que Jean Giono, il revient souvent. Donc c'est un auteur qui donne à voir hein, ses valeurs de la joie, ses valeurs de l'importance du vivant, de l'importance de notre alimentation, de la place des arbres remises au cœur de nos vies, au cœur de nos villes. Et je suis très content que tu nous aies donné à voir cette lecture qui n'avait pas encore été faite. On est d'ailleurs, hein, ça y est, en 2030 glorieuse, et pays utopique de Jean Giono, j'ai l'impression. Et on va faire le jeu pendant une quinzaine de minutes, vingtaine de minutes, de voilà, se projeter dans ce monde où, comme je le disais en préambule, nous avons réussi à viser d'autres croissances. La croissance de la solidarité, la croissance de la régénération du vivant, la croissance de la créativité, et que sais-je encore, à nous de le définir. Et donc, pour les personnes qui nous écoutent, qui sont restées en 2022, notre devoir, ça va être de le définir du mieux qu'on peut, de le rendre plus élaboré, plus touffu, plus texturé, pour que vraiment ça parle au plus grand nombre et que ça donne envie au plus vite de retour en 2022. De se mettre en mouvement et de tendre vers ces 2030 glorieuses, de les faire advenir dès à présent. La première question que je te pose, Alexandra, sur ces 2030 glorieuses, c'est si toi tu regardes à travers la fenêtre là, qu'est-ce que tu vois ?
Ce que je vois, c'est effectivement, c'est un petit peu ce que tu disais, c'est-à-dire une nature qui retrouve sa place, l'humain qui retrouve sa place, la solidarité entre les gens, cette proximité, cette vulnérabilité aussi qui est profondément humaine, c'est-à-dire qu'il faut, je pense, qu'on arrive à sortir de cette forme de vernis paradoxal de la toute-puissance et de la compétition permanente pour retrouver une forme de vulnérabilité qui est humaine, en fait, et qui doit être au cœur aussi de nos relations à tous les niveaux. Donc voilà, c'est ce que je vois, c'est ce que j'espère, en tout cas, pour les années qui viennent.
Ouais, cette vulnérabilité qui nous permettrait à nouveau de reconnaître notre interdépendance, effectivement. Tu parlais aussi de proximité. La proximité de l'humanité, elle est clé dans le sens où, bah voilà, nous sommes des animaux sociaux par excellence et donc nous avons besoin de sentir que nous appartenons à une communauté. Nous avons besoin aussi de réduire les distances pour pouvoir nous rapprocher des gens, nous rapprocher des autres, nous rapprocher de la culture, nous rapprocher de tout un tas de choses. Et en 2030, c'était particulièrement, comment le dire, en 2030, on a eu besoin de travailler à cette proximité qui s'est un peu distendue puisque le pétrole, il a continué de flamber. Si bien qu'aujourd'hui, prendre un transport individuel, c'est devenu un véritable luxe. Et comment le train nous a aidés à rester mobiles ?
Bah, le train nous a aidés à rester mobiles parce qu'effectivement, à travers ce modèle de... Alors, le train nous aide à rester mobiles pour aller voir les uns les autres, pour aller se rencontrer effectivement... À des distances, alors ça peut être sur des longues distances, hein, parce qu'on peut prendre le train pour aller très loin, mais aussi pour aller finalement pas très loin, dans le village d'à côté, dans la ville d'à côté, et voilà. Et donc ça, c'est le train par son mode de propulsion, si j'ose dire. Enfin, en tout cas, forcément, c'est un moyen de transport qui est beaucoup moins coûteux en énergie que d'autres moyens de transport. Donc voilà. Après, le train est aussi un élément de non-mobilité. Et j'aime beaucoup dire ça. C'est-à-dire que le train a cette spécificité qu'il apporte finalement, il peut apporter en tout cas dans certains territoires, un certain nombre de biens, voire même de services. On avait travaillé avec le Livradois Forest, par exemple, qui est un territoire qui est très rural, qui est situé en région Auvergne-Rhône-Alpes. On a travaillé sur ce que justement le train pouvait apporter sur un territoire comme celui-là, avec la possibilité, pourquoi pas, d'avoir à bord du train à intervalles réguliers des médecins qui viendraient, un certain nombre de... Voilà, enfin, en tout cas, de réfléchir aussi à la manière de penser le lien entre les gens, les besoins des gens autour, en fait, d'un service ferroviaire qui n'est pas simplement un service ferroviaire pour partir, venir d'un territoire à l'autre, mais voilà, qui soit un peu plus que ça, qui soit un peu plus qu'un simple vecteur de mobilité. Je pense que le train est beaucoup plus que ça, en fait. Ne serait-ce que, voilà, par sa structure même, mais aussi par le fait que ben, le train s'arrête dans des gares qui peuvent être des lieux de rencontre, qui peuvent être des lieux de vie, qui peuvent être des lieux de partage. Donc, voilà.
Au-delà de tout, ces expressions du train qu'on va continuer à détailler tout à l'heure, on a quand même assisté à un immense boom du côté de chez Railcoop, hein, où vous aviez le premier trajet Bordeaux-Lyon qui a été votre succès initial. Mais depuis, vous n'avez pas chômé. Hein, pour en citer que quelques-uns, vous avez eu le Toulouse-Caen, le Grenoble-Thionville, l'Annecy-Marseille, le Strasbourg-Clermont-Ferrand. Bon, il y en a plein d'autres. On ne va pas se lancer dans une liste à la Prévert. Ça veut dire que Railcoop s'est largement développé et que vous avez réussi à dépasser des obstacles administratifs et financiers qui, au début de votre initiative, étaient très, très présents.
Oui. Donc, effectivement, on s'est développé. On a ces lignes qui ont été lancées. On a innové quant à la possibilité. On a offert la possibilité à plus de gens, finalement, de prendre le train, c'est-à-dire des personnes en situation de handicap, des familles avec enfants, avec plein de bagages, plein de poussettes, plein de choses comme ça, des personnes avec des vélos cargo, des vélos divers et variés. Enfin, voilà, on a aussi, au-delà du service ferroviaire qui a été développé, on a en effet aussi redonné envie vraiment aux gens de prendre le train. Et voilà. Et on a aussi développé un modèle d'entreprise citoyenne où finalement les gens ont conscience que les trains Railcoop qui circulent sont bien leurs trains. À l'intérieur des trains Railcoop, il y a les sociétaires Railcoop sont là, sont présents, peuvent être effectivement disponibles pour répondre aux questions des autres passagers qui seraient ou non d'ailleurs sociétaires de Railcoop, mais il y a vraiment aussi cette compréhension et cette appropriation des trains qui circulent par les sociétaires de Railcoop.
Qu'est-ce qui vous a permis de véritablement lancer le mouvement? C'est une adaptation de la loi? C'est un soutien économique de l'État?
C'est vraiment un soutien économique de l'État pour nous permettre effectivement de démarrer nos premiers services. Ouais.
Et donc, vous avez, on vient de le dire, hein, largement augmenté le nombre de vos lignes. Vous avez aussi, j'imagine, continué à développer le fret, hein, qui était votre première bataille.
Complètement, dans d'autres territoires, notamment en Creuse, effectivement. On a réussi à faire évoluer la loi aussi pour que aujourd'hui toutes les nouvelles constructions, notamment les entrepôts, soient connectées à un système ferroviaire pour limiter l'impact du transport routier. Donc voilà, comme vous avez, comme vous aviez en 2022 la loi sur les critères énergétiques pour les bâtiments, on a fait inscrire dans la loi que toute nouvelle construction qui avait pour finalité de stocker ou d'entreposer des marchandises devait nécessairement être accordée à une infrastructure ferroviaire. Donc ce qui a contribué grandement à développer le fret ferroviaire.
Et tu le disais tout à l'heure, hein, les gares sont redevenues le cœur des villes. Alors le cœur parce que effectivement tout le monde s'y dirige pour se déplacer, mais aussi parce que tout le monde s'y dirige pour pouvoir avoir accès à ces services dans certains lieux de France qui n'accueillaient plus de médecins, mais aussi parce que il y a des trains culturels aujourd'hui qui sillonnent la France avec des concerts en gare, avec des bibliothèques mobiles. Il y a aussi de temps en temps des grandes célébrations de toutes les magnifiques les magnifiques produits français. On a des trains qui circulent avec de l'artisanat, avec des fruits et des légumes de tout le territoire. Et donc, on est aujourd'hui content de venir en gare, pas seulement pour partir, mais en fait pour se nourrir de toute cette diversité française, de toutes ces richesses françaises.
Oui, complètement, complètement. Et tout ça, effectivement, ça a été construit par les sociétaires de RAECOP, comme par exemple, effectivement, tu citais les produits locaux. On a le collectif qui s'appelle C'est Creusois, qui labellise des produits de la Creuse et qui, du coup, propose des produits creusois à bord des trains RAECOP. On a effectivement une association qui développe effectivement la lecture et les livres, qui est sociétaire de RAECOP aussi et qui a travaillé avec nous sur la construction de cette proposition finalement culturelle, avec la possibilité d'avoir des livres qui vont être mis à disposition bien évidemment dans les gares, qui peuvent être empruntés, pris par les passagers et puis redéposés à la gare suivante dans l'espace RAECOP de la gare suivante. Donc voilà, oui, il y a vraiment cette dynamique qui s'est créée autour du train, autour des trains, du train RAECOP dans les territoires, autour de différentes dimensions, comme tu le dis très bien, en effet.
Ça existait déjà un petit peu en 2022, hein, d'ailleurs, mais là, ça y est, on a vraiment des trains musées avec des expositions itinérantes, on a des trains du climat pour mettre tout le monde à niveau sur ces enjeux climatiques, des trains de la biodiversité, des trains de la forêt, des trains de l'océan, enfin, c'est une richesse qui est quand même folle, hein.
Oui, ces trains qui oui, c'est ça, des trains aussi, un renouveau des trains de nuit, hein, un renouveau, beaucoup de trains de nuit de nouveau, qui nous permettent de traverser effectivement la France, l'Europe confortablement installés. Oui, tout ça effectivement qui reprend vie finalement, non sans difficulté, puisque effectivement il a fallu depuis 2022 quand même faire évoluer un certain nombre de règles. Comme tu le disais tout à l'heure, il y a eu des évolutions réglementaires qui ont dû être apportées, par exemple notamment dans les espaces en gare, avec la nécessité de pouvoir proposer autre chose que des services ferroviaires et ou du relayage, hein, schématiquement. Enfin, je devrais certainement pas le dire comme ça dans un podcast, mais schématiquement aujourd'hui, effectivement, enfin en 2022, la réglementation était finalement assez peu tournée vers ces services liés au développement du ferroviaire, enfin un service vraiment lié au service ferroviaire dans les gares. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, offrir des services de mobilité à vélo, par exemple, dans les espaces en gare directement. C'était pas forcément simple en 2022, donc on a réussi à faire évoluer la réglementation, notamment la réglementation des gares à ce sujet.
Et ces évolutions, on les doit à la force du collectif. On parlait tout à l'heure de RailCoop comme une coopérative qui a réussi à mobiliser des dizaines de milliers de sociétaires. Il y a aussi le mouvement des licornes hein, entre coopératives qui est aujourd'hui un fleuron français, une vraie fierté à l'époque où en 2022 on était fiers des licornes avec un seul O puisque très bien positionnés sur les marchés financiers, valorisés parfois à plusieurs millions voire des milliards d'euros et de dollars. Aujourd'hui, les licornes, elles ont périclité et donc elles ont été remplacées dans le cœur des Français et des livres d'histoire par les licornes. Est-ce que tu peux me dire ce que sont ces licornes et pourquoi c'est une vraie fierté?
Ces licornes, ce sont effectivement des entreprises coopératives, pour beaucoup des SIC, hein, des sociétés coopératives d'intérêt collectif, qui s'adressent à des marchés de masse et qui effectivement sont dans une logique de lucrativité limitée, de partage de la richesse produite, de démocratie, en fait, de gouvernance partagée, participative. Et ces licornes ont réussi finalement à s'imposer dans le secteur de la téléphonie, dans le secteur du réemploi avec une plateforme comme Label Emmaüs par exemple, dans le secteur de l'informatique, tous ces secteurs, dans le secteur de l'énergie. Tous ces secteurs qui traditionnellement étaient jusque-là dévolus ou sous la responsabilité de grands groupes avec une structure capitaliste assez agressive aussi par rapport à la production de la richesse et à la redistribution des dividendes. Donc on a réussi à transformer ce modèle-là en allant sur ces modèles de consommation de marché de masse, en tout cas par rapport au secteur que j'évoquais tout à l'heure, en tant que coopérative, pour montrer qu'effectivement on peut avoir accès à ces services. Ces services peuvent être proposés par des entreprises qui ne sont pas là pour gagner de l'argent, qui sont là bien pour répondre à un besoin social, et c'est tout l'objet donc des licornes avec deux os, en effet.
Et une véritable libération pour les citoyens qui ne sont plus vus seulement comme des porte-monnaies sur pattes, mais comme des parties prenantes, en fait. Hein.
Tout à fait, ouais, c'est ça. C'est, même la conception des services, tout ça est co-construit par les sociétaires qui sont dans ces coopératives, donc avec une appropriation, une possibilité de s'engager, de définir les critères. Par exemple, chez RailCoop, les sociétaires ont défini la grille tarifaire, par exemple. Voilà, donc ça fait partie effectivement de la dynamique coopérative.
Toi, Alexandra, tu fais quoi en 2030 Glorieuse?
Je ne sais pas ce que je ferai le rendre glorieuse. Je ne sais pas. Je pense que j'ai pas pour répondre tout à fait honnêtement. Je me vois. Je ne sais pas si je serai encore chez RailCoop. Honnêtement, le projet, je le trouve absolument. Enfin, je suis dedans et à 100%, voire à 200%. Mais je pense qu'à un moment, il faut aussi laisser sa place, renouveler les intelligences, les énergies, et c'est ça qui est salutaire en fait dans la vie d'une entreprise, dans la vie d'un projet. Donc je serais peut-être, aujourd'hui, je pense qu'il y a un autre gros enjeu sur lequel peut-être dans quelques années, je m'intéresserai, c'est l'enjeu de l'alimentation. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai sujet, même au niveau international, en fait. Il faut relocaliser cette capacité, redonner, en fait, aux agriculteurs dans différents pays du monde une capacité à produire localement. J'ai des attaches particulières avec l'Afrique et pour moi, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, ce sujet.
Ouais, tu parlais aussi tout à l'heure de l'importance de ces décisions, du collectif, de ce côté peut-être un peu plus horizontal de ces entreprises, peut-être aussi quelque chose à explorer par rapport à ce modèle à propager à tous les secteurs de l'économie française.
Oui, alors après, pour moi, là, il y a un vrai sujet d'éducation. C'est-à-dire que il y a un sujet d'amener ce modèle et cette organisation finalement de la société et cet engagement démocratique, que ce soit à travers la démocratie, on va dire, directe, mais aussi à travers finalement l'appropriation des outils de production, donc à savoir les entreprises. Il y a vraiment cette pédagogie à avoir au sein de l'école pour amener les plus jeunes à être dans cette posture, dans cette position de s'approprier les choses. On le voit par exemple chez RICOP en 2022, donc ouverture de, donc le conseil d'administration donne la possibilité aux salariés de s'engager, il y a la possibilité pour les salariés de rejoindre le conseil d'administration. Pour autant, on sent que, et on le voit dans d'autres coopératives, c'est pas naturel pour les salariés, c'est-à-dire qu'on peine parfois à avoir suffisamment de salariés pour voir tous les postes, enfin tous les sièges, pardon, qui sont ouverts au conseil d'administration. Et pour moi, personnellement, c'est une vraie interrogation. C'est-à-dire que je pense que c'est ancré assez profondément par rapport à une structure d'entreprise, par rapport à une éducation assez pyramidale, je ne sais pas si c'est une question de s'octroyer la légitimité d'agir, de s'octroyer la possibilité, la légitimité de s'approprier vraiment l'entreprise dans laquelle on travaille. Mais voilà, je pense qu'il y a un vrai travail de fond sur l'éducation, sur ces modèles, ces nouveaux modèles pour envisager aussi une gouvernance véritablement participative. Parce qu'il ne suffit pas de le décréter, ensuite il faut la faire vivre, cette gouvernance participative. Et voilà, je pense qu'on se heurte en 2022 et en 2030, on se heurtera certainement moins à ça, mais à une culture d'entreprise qui est quand même très marquée par une structure pyramidale. Et il faut, je pense, revoir un peu l'éducation en la matière.
Eh ben, les 2030 glorieuses, c'est pareil. Il suffit pas de les déclarer, même si en les discutant comme on l'a fait là, on commence à les faire émerger et on leur donne la possibilité d'exister. Mais ensuite, il faut se mettre en mouvement, il faut les alimenter, il faut les enrichir. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, aux personnes qui nous ont écoutés, qui se sont enthousiasmées par ces descriptions, par ces projections que nous avons réalisées ensemble? Qu'est-ce que tu leur suggérerais comme action supplémentaire pour aller vers ces 2030 glorieuses, pour les faire advenir ces 2030 glorieuses?
Je pense que déjà agir effectivement dans l'éducation des plus jeunes pour leur montrer, les accompagner sur ces possibilités d'engagement, c'est-à-dire que je pense que dès la plus tendre enfance, et c'est là aussi où le modèle finalement coopératif est intéressant, parce qu'on voit au sein de RICOP qu'on a beaucoup de mineurs qui sont sociétaires de RICOP et qui sont fiers en fait de dire que cette entreprise est leur entreprise. Quand on fait des ateliers, alors c'est vrai qu'avec le Covid, on n'en a pas fait beaucoup, mais quand on fait des ateliers de création, de réflexion sur ce que peut être le train de demain, on voit que les plus jeunes sont très mobilisés. On voit qu'ils sont vraiment fiers de se dire, voilà, cette entreprise, c'est mon entreprise, ce train, c'est mon train. Enfin, c'est surtout ce train, c'est mon train, parce qu'une entreprise, pour les plus petits, c'est un peu théorique, mais en tout cas, ce train, c'est mon train, c'est concret, c'est notre train à nous, et on le construit ensemble. Et voilà, je pense qu'il y a une action, peut-être l'action concrète, c'est de faire venir les plus jeunes à ce modèle coopératif, mais de les engager pas simplement pour prendre une part sociale, mais les engager, par exemple, dans les processus de vote au moment des assemblées générales, en tant que représentants légaux, les associer finalement à la prise de décision par rapport à un certain nombre de décisions qui peuvent être prises. Donc, je pense que ça, c'est très, très important pour amener les plus jeunes à aller vers ce mode de pensée.
Merci, Alexandra.
Merci.
Et voilà, cet échange avec Alexandra de Bézieux est terminé. Je suis très heureux d'avoir pu donner la parole à Alexandra, parce que c'est vrai que le projet RILCOP, il est quand même hyper, hyper inspirant, parce qu'on voit un marché national qui... du coup, forcément, demande des millions et des millions d'investissements et qui peut sembler un peu trop loin pour l'échelle citoyenne, pour l'échelle coopérative. Et pourtant, RILCOP, il montre avec beaucoup d'enthousiasme que on peut réussir à surmonter ses limites financières, ses limites réglementaires pour pouvoir reproposer un service de qualité en impliquant au maximum les citoyens dans les décisions, dans le développement, dans, comme elle le disait, Alexandra, le fait de fixer les prix, le fait de promouvoir ce modèle, etc., etc. Et puis en plus, ce voyage en 2030 glorieuse avec ces gares qui seraient tour à tour des lieux culturels, pourquoi pas pour avoir des concerts, pour avoir des expositions, pour avoir des espaces de lecture, et puis à un moment ou un autre aussi des lieux de mise en avant des richesses alimentaires, et puis ensuite de services médicalisés, etc., etc. C'est vrai que c'est quelque chose que j'avais jamais vraiment imaginé, même si on commence à en voir les prémices en 2022, et là de l'imaginer avec Alexandra, moi ça m'a donné beaucoup d'envie de voir ces projets se propager de partout. Et puis c'est vrai que en plus le train, il a cette particularité, cette place pour le rêve qui me donne d'autant plus envie de faire en sorte que ça soit un lien entre les citoyennes, les citoyens, les Français, les Françaises, et puis même plus largement, comme le disait Alexandra, en fait on peut très bien pousser loin les limites du train à l'Europe, et puis en fait même à l'Asie si on accepte de voyager quelques jours, voire même plusieurs semaines, et ça fait un beau lien entre les êtres humains. Voilà, un épisode passionnant qui en appelle d'autres, j'en suis persuadé, et puis forcément moi je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de l'interview, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Bonne semaine, salut.
Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur sacommenceparmoi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !